Courant d'air
au-delà des frontières.
L'émission qui vous fait voyager le mercredi à 17h30. Bonjour à tous, bienvenue sur Courant d'air, l'émission qui vous fait voyager. Le lundi 8 février, nous fêtons le nouvel an chinois, l'année du singe. Et à cette occasion, Rennes vous offre toute une semaine de programmes culturels dédiés à la Chine. Cette semaine est co-organisée avec le webmagazine Au-delà de la muraille. C'est à cette occasion que nous rencontrons l'une des rédactrices de ce magazine, Marion. Tu es étudiante à Sciences Po Rennes et tu as passé un an en Chine. Tu nous parles de ton expérience ?
Donc, je suis arrivée en Chine en septembre 2014, donc avec le sac à dos sur le dos, puisque je revenais d'un périple en Europe. Et donc, de Rennes, je suis partie jusqu'en Suisse, puis dans toute l'Europe en sac à dos. Et j'ai pris l'avion à Moscou pour arriver à Pékin, où j'ai été accueillie dans une famille chinoise, puisque j'avais fait le choix d'être tout d'abord dans une famille en tant que fille au père. Donc le premier tableau que j'ai eu de la Chine, ça a été dans cette famille d'accueil à Pékin. Donc j'étais dans une famille très riche qui sont représentatifs de ces nouveaux riches qui ont émergé depuis une vingtaine d'années, depuis le développement économique fulgurant de la Chine. Nous avons développé des très bonnes relations dans ce cercle familial qui est très important dans la culture chinoise. C'est ce que j'ai compris petit à petit, que le cercle familial et le noyau familial est essentiel dans la culture chinoise. Donc ça a été un choc culturel énorme, évidemment. Je ne parlais pas la langue, je ne m'étais pas intéressée particulièrement à la culture chinoise. J'étais partie dans le but de vivre un décentrement culturel, de me détacher justement de l'ethnocentrisme et de ma vision européenne du monde. Et donc ça a été effectivement le cas, puisque je me suis retrouvée dans une conception complètement différente de la vie, une conception que je qualifierais d'holistique, globalisante et globalisée de l'individu et de la société, qui du coup, dans le cercle familial, a un rôle à jouer avec sa famille et doit vivre en famille constamment. Donc cela va se traduire par en fait une solidarité familiale extraordinaire. Ce qui était pour moi assez étouffant au final, puisque j'étais avec eux tous les jours, même les jours de la semaine. Et j'étais aussi, en tant que fille au père, tutrice des trois filles de la famille. La famille et moi, nous avons développé des relations familiales. Ils m'ont considérée comme leur quatrième fille. La mère m'a d'ailleurs baptisée. Elle m'a nommée Molly, qui veut dire en chinois « fleur de jasmin ». Donc ce prénom représente la beauté et l'harmonie, et également aussi l'énergie qu'elle trouvait dans mon caractère. Elle me considérait comme un exemple pour ses filles à qui j'enseignais le français et l'anglais. Donc dans une famille riche comme celle-ci, c'est très important pour leurs enfants de pouvoir parler des langues comme l'anglais et le français pour pouvoir travailler ensuite à l'international. Donc ceci montre ces nouvelles envies qui sont très prégnantes dans les villes comme Pékin, Shanghai, Guangzhou, donc les grandes villes chinoises, de cette nouvelle génération qui souhaite s'ouvrir vers le monde. Donc même si nous avons développé des très bonnes relations, c'était aussi des relations très complexes, puisque non seulement nous avions des cultures très différentes, des barrières linguistiques, puisque je ne parlais pas le mandarin et que je l'apprenais jour après jour. Et en plus de cela, une relation aussi contractuelle du fait de mon travail en tant que fille au pair. Un des exemples de conflits que nous avons pu avoir, lors d'un dîner à table, les grands-parents de la famille étaient présents et il faut montrer un très grand respect envers les aînés. Pour une raison dont je ne me souviens plus, j'ai posé mes deux baguettes sur la table, comme on peut le faire avec nos couverts, nos fourchettes et nos couteaux. Donc j'ai posé mes deux baguettes sur la table sans savoir que c'était un geste très irrespectueux envers les grands-parents présents. Vous pouvez vous imaginer la difficulté pour moi de comprendre l'erreur que j'avais commise et l'embarras dans lequel ils se trouvaient vis-à-vis des grands-parents de la famille.
Et justement, ça a dû être quelque chose, en même temps que la langue, à apprendre les codes sociaux de façon générale, parce que c'est complètement différent, j'imagine. Déjà, juste un geste tout simple pour nous, comme poser des baguettes, c'était une injure pour eux. Et eux-mêmes ont des codes qui nous paraissent, nous... eux, ça leur paraît normal, mais nous, pourtant, ça nous paraît mal vu, grossier, ostentatoire. Il y a toute une différence à apprendre.
Oui, j'ai de nombreux exemples. Par exemple, l'un des clichés que nous avons souvent des Chinois, c'est qu'ils sont sales et impolis. Il est vrai que dans la rue, de nombreux Chinois crachent, rotent, pètent aussi. Ça, c'est vrai. Mais d'un autre côté, pour eux, si nous nous touchons le nez, si nous nous mouchons en public, ceci est vu comme très impoli. D'autres exemples, le fait de perdre la face, d'avoir un visage triste, est aussi très mal perçu. Il faut toujours avoir le sourire et montrer que nous sommes heureux d'être avec les personnes qui nous entourent, afin de montrer le respect que nous leur devons.
C'est la communauté qui passe avant l'individu. L'importance de l'autre avant soi, parce que c'est là la base même, la différence même entre l'Occident et l'Orient.
Exactement. C'est une différence que j'ai appris et que j'ai essayé d'incorporer petit à petit. Cette vision holistique du monde, très différente de la vision individualiste occidentale, notamment dans les habitudes alimentaires. Nous pouvons penser à la table ronde, qui est comme un symbole pour eux du monde, où les plats ne vont pas être dégustés par un ordre comme en France, entrée, plat, dessert, mais ils seront servis en même temps, au milieu de la table, pour que tout le monde puisse les partager. Et donc chacun ne va pas faire ses propres ordres, ne va pas commander ses propres plats en fonction de leurs préférences individuelles, de la cuisson qu'ils préfèrent, mais en fonction de l'équilibre nutritionnel, l'équilibre de saveur, l'équilibre des couleurs, pour que tout le monde soit satisfait et puisse partager ensemble ce repas. Le manger en Chine est quelque chose en fait de très collectif. Donc c'est une vision très différente qui peut se voir dans ses habitudes alimentaires.
Du coup, apprendre ces codes chinois, ces codes sociétaux, justement, c'est passé par l'apprentissage de la langue.
C'est vrai que c'était aussi l'un des objectifs de ma venue en Chine, puisque je suis venue pour faire un programme d'apprentissage intensif de mandarin à l'université de Pékin, des langues et des cultures. L'apprentissage du chinois est un exercice de patience et un travail de mémorisation journalier. Tous les jours, il faut prendre son crayon et remuer ses méninges pour apprendre des nouveaux caractères. Donc, dans mon université, on apprenait tout en même temps, c'est-à-dire l'oral, l'écrit, la compréhension écrite et la compréhension orale. Donc, au début, je pouvais seulement dire bonjour. Au bout d'un mois, je pouvais me présenter. Et au bout de 3 mois, je pouvais avoir une conversation avec des amis chinois sur des sujets simples. Mais on pouvait commencer à se comprendre. C'est pour vous dire que cette image comme quoi le chinois est très différent, Une fois qu'on a compris le fonctionnement de la langue, il faut simplement apprendre de plus en plus de caractères chinois, comprendre les différents tons, parce qu'il y a 4 tons en chinois. Si je dis « ma », ça veut dire « maman ». Et si je dis « ma », ça veut dire « cheval ». Et ensuite, c'est assez simple, je dirais.
Tu me disais que c'était compliqué pour toi d'aller à l'université.
Je m'étais depuis la maison de la famille jusqu'à mon université, 2 heures en transport en commun le matin. Donc ça, c'est un bon moyen pour vous laisser imaginer l'immensité d'une ville comme Pékin. Donc les échelles sont quelque chose que je n'avais pas pris en compte avant de partir et qui m'ont vraiment frappée à mon arrivée en Chine, puisque par exemple la Chine fait 17 fois la France. Tous les matins, je devais me lever très tôt vers 6 heures pour prendre le métro. Le métro qui à 7 heures est rempli de monde, est bondé, donc dans lequel il faut réussir à se faufiler en poussant les gens pour pouvoir arriver à destination à l'heure. Même s'il y a autant de monde, je trouve que les Chinois sont assez polis au final, puisque réussir à supporter autant de monde tous les jours, tous les matins, c'est assez pesant. Et ils se comportent, je trouve, de façon très polie.
Là, tu parles du coup de la capitale, de la concentration de population qu'il y a, qui est immense. Mais tu as passé, tu me disais, un mois à l'extérieur de la ville avec juste le sac à dos pour découvrir la campagne chinoise.
C'est vrai, j'ai eu la chance de prendre le sac à dos, de reprendre le sac à dos qui me manquait un peu en décembre pour voyager dans le reste de la Chine. Donc évidemment, la Chine est immense, donc je n'ai pas pu la voir dans sa globalité. Mais je suis descendue sur la côte est et donc je suis arrivée à Guangzhou dans le canton, puis à Hong Kong pour ensuite aller plus dans le sud-ouest et revenir ensuite vers la région de Shanghai. Donc la Chine finalement ce n'est pas qu'un tableau. Donc ce périple m'a permis de voir plein d'autres tableaux de la Chine puisque ce pays est comme un continent. Les façons de vivre sont aussi très différentes d'un bout à l'autre de la Chine. Dans le sud-ouest de la Chine et dans l'ouest de la Chine en général, ce sont des régions beaucoup plus rurales où les traditions ont parfois été beaucoup plus préservées, notamment à Lijiang, où ce sont encore des villages très traditionnels avec des marchés le matin pour vendre de la nourriture faite dans les pures traditions. Donc ils arrivent à vivre de l'agriculture très simple et de la vente de leurs légumes et de leur pain à la vapeur, souvent de leur baozi, des raviolis chinois, enfin autant de variétés culinaires qu'il serait très long de décrire ici. Et donc ce sont d'autres visages de la Chine, que ce soit aussi une question d'un point de vue culturel, puisque de nombreux Chinois ne parlent pas le mandarin. Il y a énormément de minorités en Chine, dont les Hui, par exemple, qui sont une minorité avec une religion musulmane. C'est une religion qui a été adaptée, évidemment, à la culture chinoise, donc ils pratiquent différemment. Il y a aussi une communauté chrétienne en Chine, même si la majorité des Chinois sont de confession bouddhiste.
On se retrouve tout de suite après cette pause musicale relaxante, un chant prière dédié à Bouddha. À tout de suite.
Quan lu yang yuan he shi dao zhong dian wo 坚守这份信念。
Vous êtes toujours sur Courant d'air, bienvenue aux auditeurs qui nous rejoignent. Dans le cadre de la semaine chinoise, nous sommes avec Marion qui a en un an pu expérimenter plusieurs cadres de la société chinoise. Tu as vécu dans une famille, tu as été à l'université, tu as voyagé en sac à dos dans les campagnes chinoises et tu as aussi eu l'occasion à deux reprises de travailler là-bas.
Oui. C'est vrai, donc à mon retour, j'ai à nouveau posé mon sac à dos et j'ai eu l'opportunité de travailler dans une société d'import-export dans le vin. Donc j'étais en lien avec des fournisseurs européens, des clients locaux chinois à qui je devais expliquer de nombreux concepts au sujet de la viniculture et de la dégustation du vin, puisque leur conception de la boisson est très différente. Notamment de nombreux Chinois peuvent mettre du Sprite ou du Coca dans le vin. Donc évidemment, lorsqu'on leur vend des vins de très bonne qualité, il faut avoir un travail de fond pour expliquer comment déguster un vin de qualité. Donc c'était très intéressant, notamment aussi d'apprendre à me positionner dans les relations au travail. Nous travaillons avec des équipes multiculturelles, donc européennes et à la fois chinoises. Comment travailler ensemble. Et donc un autre travail aussi que j'ai eu l'occasion de faire, c'est professeur dans les écoles publiques en Chine. Donc j'étais professeur d'anglais surtout. Donc devant 40 enfants, donc c'était beaucoup d'exercices de chant, de dialogue. Le but, c'était vraiment d'essayer de les amuser en apprenant, puisque c'est une nouvelle façon de faire en Chine. Avant, beaucoup de leurs cours sont dans l'apprentissage, l'étude de textes qui sont souvent un apprentissage sérieux, qui ne permet pas aux enfants de s'amuser et de s'épanouir. Donc cette classe était un peu pour eux une cour de récré pour apprendre l'anglais différemment. Mais pour autant, lorsque j'avais aussi parfois des cours individuels, j'avais beaucoup cette pression des parents pour que leurs enfants apprennent au plus vite, au mieux. Ils pensent beaucoup à l'avenir de leurs enfants qui doivent réussir à tout prix l'examen, le Gaokao, qui est l'équivalent, on va dire, du baccalauréat, qui leur permet ensuite d'accéder aux universités chinoises.
Bon, en Occident, on a aussi un regard très critique sur le régime politique chinois, considéré comme autoritaire et qui ne respecte pas les droits de l'homme. Est-ce que tu as ressenti dans ton quotidien cette oppression de l'État ?
En tant qu'étrangère vivant à Pékin, donc ça c'est très important, puisque Pékin est bien le centre politique et administratif, qui est la ville la plus surveillée de Chine. Donc je me suis sentie, c'est vrai, contrôlée et surveillée à Pékin. De nombreuses caméras étaient présentes dans mon quotidien, que ce soit dans la salle de classe ou dans les rues de Pékin, notamment évidemment sur la place Tiananmen, où les militaires entourent la place et un contrôle d'identité est obligatoire avant de pouvoir accéder à la place. Une autre preuve de ce contrôle, de cette surveillance, c'est notamment lors de nos conversations sur des sujets qui sont politiquement sensibles, comme la pollution.
Pékin placé en état d'alerte rouge en raison de la pollution qui étouffe la capitale chinoise. C'est une première, le rouge correspond à l'alerte maximale. La décision a été prise ce lundi par les autorités face au niveau de densité de particules fines dans l'atmosphère. Un taux particulièrement élevé est jugé dangereux au regard des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé.
La pollution est un mot qui est censuré dans les médias chinois. Donc, lors d'une conversation téléphonique avec une amie, la conversation a coupé après l'utilisation du mot pollution. Pollution qui est un mot qui n'existe pas dans la langue chinoise. On parle plutôt de brouillard. pour une Française qui c'est vrai, donne beaucoup d'importance à la liberté d'expression. C'est une notion qui est encore très peu en germe dans les esprits chinois, que ce soit les étudiants ou les personnes plus âgées. C'est quelque chose qui est très difficile à comprendre au début et de ne pas en fait être choqué du fait qu'il n'ait pas envie de s'intéresser plus à la politique. J'ai notamment essayé d'en parler avec certains amis étudiants. Très peu sont intéressés par la politique. Ils pensent que le gouvernement sait ce qu'il fait, donc il les laisse faire ce qu'ils font. Ils s'intéressent surtout donc à leur quotidien, sans s'intéresser du coup à la vie politique. Ce qui était très intéressant comme rencontre, qui était très rare, c'était avec deux amis chinois, l'un qui a vécu en Europe et qui ensuite est revenu en Chine pour travailler en tant que conseiller du gouvernement chinois, mais il a arrêté puisqu'il s'est rendu compte qu'il n'avait très peu de poids et que c'était difficile d'influencer la politique chinoise. Il avait des conceptions très différentes, beaucoup plus démocratiques, on va dire, beaucoup plus occidentales de la politique. Et un autre ami qui, lui, était militant en Chine et qui s'est fait arrêter plusieurs fois par la police. Et qui était absolument anti-gouvernement chinois. Ce sont deux rencontres très, très marquantes avec qui j'ai eu des débats très, très intéressants, qui me donnent l'espoir, après être passée à Hong Kong suite à la révolution des parapluies jaunes, que peut-être la Chine, dans une vingtaine d'années, aura connu une évolution politique majeure.
Et pendant ta période étudiante, tu as rencontré beaucoup d'étudiants originaires du continent africain, notamment. Parce qu'il y a un développement économique entre la Chine et l'Afrique.
C'était très intéressant pour moi, puisque c'était une diversité culturelle et c'était quelque chose à laquelle je ne m'étais pas attendue. Mais grâce à mon université, j'ai pu rencontrer de nombreux étudiants africains qui sont pour la plupart venus grâce à une bourse qui leur a été donnée par le gouvernement chinois. Donc c'est une politique très intelligente du gouvernement chinois qui investit dans la matière grise des pays africains dans lesquels ils ont maintenant de plus en plus d'intérêts financiers, économiques pour les ressources naturelles et autres, qui seront du coup des futurs ambassadeurs, des futurs interlocuteurs pour commercer ensuite entre les pays africains. Et la Chine.
Tu as encore beaucoup de choses à nous raconter, mais malheureusement, on arrive presque à la fin du numéro. Et on pourra en apprendre plus à ce sujet parce que tu lances un magazine qui s'appelle Au-delà de la muraille.
Alors, c'est un projet qui est né à notre tour de Chine, puisque nous avions l'envie de diffuser une autre image de la Chine, dont l'image en France est très négative ou déformée. Donc pour cela, nous avons créé un magazine en ligne qui s'appelle Au-delà de la muraille. Il est disponible déjà avec son numéro de présentation et nous sortons à l'occasion du Nouvel An chinois, donc ce lundi 8 février, pour fêter la nouvelle année du singe de feu, le premier magazine donc rennais étudiant sur la Chine. Donc nous vous invitons évidemment à venir en ligne nous découvrir sur notre site. Vous aurez mes coordonnées sur le magazine Au-delà de la muraille. Donc n'hésitez pas à me contacter pour toute autre question sur la Chine, si vous voulez aussi contribuer à notre magazine. Et je vous remercie en tout cas Courandair pour m'avoir invité aujourd'hui.
Chers auditeurs, on vous souhaite un très bon Nouvel An chinois. Vous trouverez les infos et le podcast sur la page Facebook de Courant d'air. Merci à DJ Bril, merci à Radio Campus Rennes et merci à vous pour votre écoute. On se quitte sur le titre Four Ways de Dame Wangang, groupe de rock alternatif et qui a joué à Villejean lors de la semaine chinoise. Merci et à très bientôt.
C'est ni man. Zai jian.
Yeah. 熊的头到熊的脚，穿山甲有一条道，这山和那山一边高，慌张的花子一条道，人参果嗅到尖的尖儿，发青的叶绿有一条道，红柳丹闻到狼毒草。修到尖的尖儿，发青的叶绿有一条道，